Le futur ne manque pas d'avenir avec Philippe Meyer et Philippe Muret. Alain Finkielkraut, prise de son Philippe Bredin, réalisation Patrick Molinier. Quelques mois, on pouvait lire ceci dans la rubrique Nécrologie du quotidien Libération. Par son caractère totalitaire, son pouvoir de nuisance, sa hargne morbide à vouloir éliminer l'autre, son dégoût de l'humain, le cancer ne peut s'apparenter qu'au fascisme. La réciproque est tout aussi vraie. Je les vomis l'un et l'autre. Ma tourterelle, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman est décédée à l'âge de 45 ans. Ses cendres seront inhumées en Corrèze, aux confins des mille vaches. Il n'y aura pas de curé. Fin de citation. Cette horizon funèbre stupéfiante aurait pu illustrer l'époque moderne que nous vivons, où le progrès fait rage, et figurer dans les chroniques que Philippe Meyer, notre compagnon matutinal, publie ces jours-ci. Mais, comme on la trouve reproduite dans le bloc-notes de l'année 1998, que Philippe Muret vient de faire paraître sous le titre « Après l'histoire », c'est à Philippe Muret, pour commencer, que je demanderai de quoi, de quelle mutation, de quelle pathologie, de quel monde, le faire-part que je viens de lire est l'annonce, ou peut-être déjà le symptôme. Philippe Muret.
Oui, ce faire-part m'a paru le symptôme d'une confusion grandissante. Vous remarquerez qu'il s'agit d'un homme qui a perdu sa mère. Il n'y a pas une plus grande douleur au monde que de perdre son père ou sa mère. Et pour exprimer cette douleur, il ne trouve que cette métaphore du fascisme assimilée au cancer. Sa mère est morte du cancer et il dit que le cancer, c'est le fascisme. Il y a quelque chose d'extraordinairement symptomatique dans cette assimilation d'un mal. Alors, bien entendu, le fascisme est un mal, mais c'est un mal historique, le cancer, c'est un mal perpétuel, humain, ça m'a paru tout à fait représentatif d'un monde où la mort et la vie, où les frontières qui séparent la mort et la vie sont de plus en plus floues. Cette petite annonce, ce faire part que je cite, je le cite à l'intérieur de toute une réflexion sur la mort, à propos de la festivisation de la mort par l'apparition de la fête d'Halloween qui petit à petit remplace, qui me semble remplacer l'ancienne fête des morts, l'ancien jour des morts, et à propos de la festivisation des rituels funéraires par l'apparition de nouveaux types de tombes qui font que petit à petit comme le reste la mort se retrouve festivisée. Elle est
Oui, vous parlez d'une ère nécrofestive.
Voilà, exactement.
Oui, mais alors, cet homme, il ne fait pas de la mort une fête.
Non,
simplement, il fait de la tragédie
il abaisse
un scandale quasiment politique.
Il a inventé une fausse et d'une certaine façon on a l'impression qu'il n'a plus rien en propre pour exprimer cette douleur personnelle.
Oui, vous dites notre civilisation est la première à ne plus rien posséder que le misérable fascisme.
Voilà.
Pour donner encore une signification à ce scandale suprême.
Voilà.
Mais et en même temps on peut peut-être aller aussi plus loin à l'aide de votre livre, puisque vous écrivez à propos des intempéries qu'elles-mêmes deviennent aujourd'hui insupportables. Donc au fond, en effet, tout ce qui était soustrait à la prise humaine, à la manipulation humaine, tout ce qui était justement inviolable, pour le meilleur et pour le pire, aujourd'hui n'est plus toléré, parce que c'est comme si, au fond, tout devait être aux ordres, en quelque sorte, de l'homme. Donc vous dites, c'est pourquoi les intempéries, qui par moments se rappellent au bon souvenir des populations, sont accueillies comme des affronts insupportables. Une autoroute bloquée par la neige, ou des inondations intempestives apparaissent comme les résurgences odieuses de l'ancien ordre des choses. Homo festivus, l'individu qui se croit vaniteusement vainqueur et sur tous les fronts de la nature naturalité hostile, ne va plus jamais d'un point à un autre, mais très exactement d'une fête à une autre, et vous ajoutez, pour finir le raisonnement, le réel est désormais quelque chose qui ne peut plus être toléré. Et c'est ça aussi qui s'exprime, me semble-t-il, dans l'assimilation de la mort, du cancer, de la maladie, enfin, c'est-à-dire de la tragédie pure au fascisme, c'est l'intolérance grandissante au réel, et même à la finitude.
C'est la déréalisation du cancer par l'invocation d'un réel incontestable, mais qui n'a rien à voir avec la maladie du cancer. Mais pour reparler de la festivisation de la nature, puisque la festivisation généralisée se poursuit, en février dernier, au moment des vacances de neige, comme on dit, il y a eu une opération que j'ai entendue à la radio, que France Info s'associait à l'opération Montagne en fête. Juste avant que la montagne se déchaîne dans les...
Oui. Et d'ailleurs, le déchaînement était d'autant plus mal vécu, puisque la montagne n'était pas au rendez-vous qu'on avait fixé pour elle à travers cette montagne, en fait. Alors, est-ce que ça fait partie de, comment dire, du réel, de la réalité que vous examinez, Philippe Meyer?
Oui,
que c'est absolument pour vous.
Cette petite annonce que Philippe Muret a repérée, c'est exactement l'une des traductions de cette façon de se fabriquer soi-même une posture de héros, le mal étant évidemment extérieur, d'assimiler n'importe quoi à quelque chose qui puisse éveiller la sympathie, la solidarité forcée du plus grand nombre, au lieu d'une solidarité réelle autour de cet événement épouvantable qu'est la mort de quelqu'un qui vous est cher. Alors, c'est terrible parce que c'est dégoûtant, je veux dire, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant d'abord parce que passer à côté de la vraie mort de quelqu'un pour fabriquer autre chose, ça veut dire qu'au fond, ce quelqu'un, on n'a pas vraiment de considération pour lui. On ne peut pas, c'est pas vrai. C'est dégoûtant aussi parce que le fascisme, nous l'avons observé, connu directement. Enfin, directement, nous n'avons pas été victimes, mais il n'était pas éradiqué de la face de la Terre, de notre vivant. Et la génération de nos parents, les miens, ont lutté contre le fascisme, quelques-uns n'en sont pas revenus, d'autres en sont revenus défaits d'une manière ou d'une autre, brisés un peu, beaucoup, complètement. On se souvient que ça a eu une réalité précise, on se souvient aussi du petit courage ordinaire, au jour le jour, des gens qui ont fait que finalement le fascisme a été ici, là, plus loin, ailleurs, vaincu. Et donc, tout ça est dégueulasse, c'est-à-dire que cette assimilation, si vous voulez, je trouverais un équivalent dans la posture que adoptent beaucoup de cultureux, qui consiste à être des artistes maudits après avoir fabriqué des artistes maudits qui ne l'étaient pas, notamment Van Gogh, par exemple, artiste maudit purement fabriqué, puisqu'on sait qu'il n'a peint que 4 ans et demi dans sa vie, qu'il n'a pas eu le temps de devenir connu, parce que personne ne devient connu en 4 ans ou en 5 ans, que de surcroît on ne peut pas prétendre que quelqu'un apporte quelque chose de radicalement nouveau et s'étonner que la reconnaissance n'arrive pas immédiatement, et qu'enfin Van Gogh, comme tout le monde peut le lire dans les livres de poche de sa correspondance avec Théo, refusait qu'on vende ses tableaux, et que Gauguin, Théo, Toulouse-Lautrec ont réclamé à Van Gogh qu'il vende ses tableaux, et que Van Gogh ne voulait pas. Ou Mozart, autre martyr absolument fabriqué, l'enterrement de Mozart et l'enterrement que tout le monde avait du temps de Joseph II, qui pour des raisons hygiéniques avait interdit qu'on utilise des cimetières à l'intérieur des villes, et avait demandé que chacun soit enterré seul dans de la chaux et dans des fosses communes. Mais l'enterrement était donc déplacé du cimetière à l'église, et l'enterrement de Mozart a connu une église absolument bourrée. Bon, alors ensuite, la légende du chien propagé par le cinéma, comme on sait, tout ça fabrique des artistes de référence maudits qui ne le sont pas eux-mêmes, pour faire aujourd'hui des artistes pseudo-maudits dont on sait qu'ils croulent sous les commandes.
Oui, d'ailleurs, vous avez, Philippe Muret, une expression merveilleuse pour traduire à l'époque le conformisme paradoxal de notre temps. Vous parlez, je crois, des mutins de Panurge.
Oui. Mais
alors, encore un mot sur ce faire part, si vous voulez, terrible et poignant, justement, c'est-à-dire qui n'est pas à la hauteur de la douleur que peut-être celui qui l'a écrit ressentait, du moins peut-on le supposer. Vous diriez aussi, Philippe Meyer, que ce n'est pas quelque chose simplement de délirant, que ça dit quelque chose de notre temps, parce qu'on peut dire bon, c'est atypique, et puis
j'ai commencé ma vie professionnelle dans la psychiatrie, je crois avoir encore une assez vague notion de ce que c'est qu'un individu délirant. C'est pas du tout un délire, c'est une manifestation sociale, c'est un symptôme d'une évolution de société, et tu sais, si Philippe Muret
le cancer est déréalisé, la mère n'existe plus non plus, la douleur, elle existe certainement, mais...
Déréalisation, dites-vous, et effectivement, ce bloc-notes de l'année 1998 que vous avez publié se lit vraiment comme un essai. C'est un essai parce que vous y essayez, d'une certaine manière, vous y expérimentez un concept, une catégorie, et vous y avez fait référence, mais peut-être peut-on s'arrêter un peu plus. Vous dites que nous vivons une sorte de mutation anthropologique, que c'est pas rien. Et vous dites, au fond, un certain type d'humanité semble disparaître. Justement, celui qui une humanité marquée par la finitude, et donc un autre rapport à la tragédie et à la mort, et donc cet homme disparaît au profit d'un homme et que vous baptisez Homo Festivus. Alors, faites-nous le portrait d'Homo Festivus.
C'est pour essayer de
l'homme festif,
de le différencier, hein, ceux qui ont peur. Homo Erectus, Homo Sapiens, etc.
Homo Loquax aussi, parce que le verbe a de moins en moins d'importance.
Absolument, il va aussi vers une sorte de nouvelle animalité par l'éloge perpétuel de la communication non verbale et tout ça. Bon.
Peut-être que les animaux peuvent être laissés hors champ parce que, bon, c'est autre chose.
Mais allez-y. L'animalité,
oui, les
animaux.
D'accord.
L'animalité au sens égal, la nouvelle animalité au sens égalien, c'est pas péjoratif. Pour les animaux. J'ai essayé de mettre, j'ai essayé de mettre à l'épreuve de faits très concrets une hypothèse qui est qu'on entre dans un monde nouveau. J'ai pris des faits chaque mois, puisque c'est un bloc-notes qui paraissait chaque mois. J'ai pris des événements, des anecdotes quelquefois très triviales ou plus générales, et j'ai essayé de voir comment progressait. Comment s'illustrait mon hypothèse de l'arrivée d'une nouvelle ère qui est ce que j'appelle l'ère hyperfestive, c'est-à-dire une ère où il n'y a plus de fêtes proprement dites, elles existent, mais cette la multiplication des fêtes fait qu'il y a une sorte de nappe générale, d'envahissement général par le festif, qui fait que c'est un temps à la fois entièrement festivisé et sans fête particulière, puisque la fête était le retournement, le renversement de la fête traditionnelle était le renversement du temps quotidien, de la vie quotidienne. Dans cette vie quotidienne, l'habitant heureux de cette vie quotidienne, c'est celui que j'ai appelé Homo Festivus. C'est un nouvel homme qui me semble être le produit d'une sorte de métamorphose qui n'a pas encore été vraiment étudiée.
Et dont Jacques Lang est un peu le prophète quand même là-dessus.
Oui, donc bien sûr, non, c'est l'ordonnateur de cette pseudo-festivité, cette festivité
présente aussi dans votre livre,
laïque, gratuite et obligatoire.
Le chef d'orchestre presque idéal de la mutation.
Oui, c'est l'hôtesse d'accueil de l'univers.
Oui, parce que d'abord, il est l'homme qui a imposé en France ou introduit en France la technoparade, et c'est vrai que on est
la commence
vie. La fête de la musique, la technoparade, la gay parade, ça ne vient pas de lui, ça fait partie du même univers. Et c'est vrai que cette hypothèse, elle a quelque chose de très frappant, parce que il y a quelques jours seulement, on a célébré la fête d'Internet.
Absolument.
Sur un grand magazine, on a vu des cliquets souriants. Il y a maintenant la fête de la langue française.
Oui, la fête des grands-mères.
Il y a la fête des grands-mères.
Certains chroniqueurs de radio sont associés. Il y a aussi le printemps des poètes. Oui. Donc c'est là-dessus que je voudrais m'interroger avec vous, c'est-à-dire pourquoi cette célébration constante, pourquoi notre intérêt politique mais et culturel, parce que pourquoi tout doit passer par la fête. Les manifestations, ça je l'ai constaté, deviennent de plus en plus des fêtes, que ce soit des manifestations syndicales ou des manifestations identitaires. Maintenant,
on joue du tambour
et on danse.
Oui. Grandes manifestations de deuil et de colère et de douleur, comme les manifestations qui ont suivi la marche blanche.
Les ballons.
Avec les ballons.
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est cet impératif festif? Alors, pourquoi cette catégorie obligée?
J'ai là-dessus un regard un peu politique. Il me semble que cette société, particulièrement la société française, est marquée par l'émergence depuis une vingtaine d'années d'une génération assez large, mais dont les représentants les plus brillants sont les 68ards, génération qui a réussi à se constituer elle-même en race au-dessus des autres, en race des seigneurs. Et que cette race des seigneurs occupe des places dont elle n'est absolument pas capable d'exercer les responsabilités. Elle veut les places, elle veut les fonctions, elle veut les grandeurs d'établissement, mais elle n'en exerce pas les responsabilités. Et d'ailleurs, ce qui me frappe frappe dans cette génération, c'est qu'elle passe son temps à feindre de ne pas être là. Le mot d'ordre de cette génération pourrait être celui du chat de Mallarmé. Je fais semblant d'être chat chez Mallarmé. Je fais semblant d'être ministre, je fais semblant d'être directeur d'une administration centrale, je fais semblant d'être directeur d'une rédaction, mais je n'en exerce aucunement les responsabilités car elles sont contraignantes, et un jour on pourrait me juger sur l'exercice de ces responsabilités. En réalité, je ne suis pas directeur d'administration centrale, je suis écrivain, je ne suis pas directeur de la rédaction d'un journal, je suis romancier, ou je suis Dieu sait quoi d'autre. Et au fond, ce système-là a été, sur le plan politique, porté à la quasi-perfection par le mitterrandisme, qui a constitué la chasse gardée de cette race de seigneurs autoproclamés, et dont le fonctionnement est celui du clientélisme. Et cette perpétuelle fête permet de masquer l'absence d'exercice réel de la responsabilité politique. Un mot simple et même trivial sur la fête de la musique: la fête de la musique sert à masquer le fait que on n'enseigne pas la musique nulle part d'une manière qui soit le moins du monde attrayante, que rien n'a progressé sur ce plan-là, que aujourd'hui, une association de la loi de 1901 à but non lucratif qui organise des concerts est taxée comme une société commerciale, parce que il faut prendre l'argent partout, précisément pour nourrir l'inflation clientélesque qui est produite par ce système, ou encore que on fait la fête de la musique et on laisse la TVA sur les disques, c'est-à-dire à 20,6%, c'est-à-dire que la possibilité de manifester un acte culturel, qui est le choix, qui est de décider qu'on va aller acheter un disque d'Indemite ou un disque de Nick Tamer, est de toute façon taxée à 20,6%. Et tout ça se camoufle de la même manière que le printemps des poètes, mais je ne veux pas filer cette comparaison à l'infini, je crois qu'elle marcherait pour toutes les fêtes. Et je dirais que la fausse fraternité qui naît de cette fausse fête est un moyen d'étendre l'illusion de cette race de profiteurs qui fonctionne selon le principe poussé vraiment à l'exagération extrême du clientélisme.
Alors, votre hypothèse, moi je donnerai la mienne aussi.
Mon hypothèse, c'est que la festivisation s'installe là où, c'est pas toujours aussi systématique, mais elle s'installe, me semble-t-il, souvent là où la vis est en train de se retirer. Elle s'installe il y a une fête de la musique. Je ne sais pas très bien si la musique est en très bonne santé.
Non, elle est en mauvaise santé.
Elle est remplacée, en tout cas, par une néo-musique insupportable. Bon, quand il y a une fête des poètes, il est évident que la poésie n'est pas au mieux de sa forme. Je crois que la fête, c'est ce qui remplace, d'une certaine façon, la vie. C'est, pour citer Hegel, c'est la vie mouvante en soi de ce qui est mort.
Et c'est pour ça que justement vous dites qu'on arrive après l'histoire.
Oui.
Et nous irons tout à l'heure. Moi, j'aurais une hypothèse qui d'ailleurs ne contredit pas les vôtres, mais ma référence philosophique, ce serait plutôt Heidegger que Hegel. Je me demande si effectivement l'homo festivus, c'est pas l'homme qui correspond à ce que Heidegger appelle l'ère de la technique. Parce que vous dites par exemple, hyperfestif est le moment du dépassement fatal et absolu de l'art. Et là, ça rejoint votre inquiétude à l'un et à l'autre. Tout le monde doit s'éclater, tout le monde doit être artiste, tout le monde doit être tout le monde. Et ça, c'est très exactement ce que, d'une certaine manière, la technique nous promet, puisque elle est l'ère de la disponibilité absolue de tout à tous, et de tous à tous d'ailleurs. C'est-à-dire disponibilité des produits, disponibilité des talents. Hein. Et on vit
c'est
dans le monde...
de la disparition de la différence entre un artiste et un non-artiste.
Oui, l'ère de l'indistinction, de l'indistinction. Mais alors justement, là-dessus, je voudrais vous titiller un tout petit peu. Vous voulez dire...
Non, je voudrais juste citer un fait, parce que j'avais un prof de philo qui nous faisait concourir tous les ans sur le thème « Le monde est-il mené par le mensonge ou par la vanité ?» C'était un optimiste. Et alors moi, j'en avais tenu, on faisait donc des discours, c'est un concours de rhétorique philosophique, et moi j'en avais tenu pour la vanité, mais mon discours avait été jugé pauvre pour la raison qu'il manquait d'exemples qui avaient été frappants. J'ai trouvé cet exemple par hasard, quelques années plus tard.
C'est ça l'école, on fait toujours.
J'ai pensé évidemment à ce prof en disant « Ah, il faudrait que je lui dise ». Et l'exemple est le suivant. Il s'est ouvert en Californie, à côté d'ailleurs d'un parc, non loin d'un parc Disney, un parc de loisirs qu'on pourrait appeler une sorte de parc de culture de Lego, dans lequel vous arrivez, vous achetez votre ticket d'entrée. Il vous est remis non pas un ticket, mais une invitation, et votre nom est écrit à la main. Cette invitation calque les invitations des grandes soirées américaines, genre Hollywood ou des choses de ce genre. Ensuite, on vous loue un smoking ou une robe longue selon votre sexe. Puis, vous entrez sur un tapis rouge qui vous conduit à une grande salle à manger, et Tout le long de ce tapis rouge, il y a des photographes qui vous mitraillent, des caméramans qui vous filment et des gens qui hurlent votre nom en vous demandant un autographe, qui sont évidemment des figurants payés pour la chose. Puis on vous interviewe sur n'importe quoi. Vous pouvez donner votre avis sur la marche du monde ou sur la recette du pot-au-feu. Puis vous allez à la salle à manger et pendant que vous serez à la salle à manger, on passe sur un écran vidéo votre interview qui a été montée. Et vous pouvez même, pour un léger supplément, jouer dans un film, avec les trucages qu'on peut faire aujourd'hui, qui sont formidables, vous pouvez jouer dans un film avec le partenaire de votre choix. Donc, si vous voulez remplacer Humphrey Bogart pour causer avec Lauren Bacall, vous pouvez très bien. Si vous voulez remplacer, je ne sais plus le nom de l'actrice qui joue avec Leonardo DiCaprio, vous pouvez aussi. Et je me suis dit, bon, eh ben, ça y est, voilà, la vanité mène le monde. Eh bien, j'avais raison, mais il manquait l'exemple.
Oui, la vanité, aidée par la technique, et le phénomène d'indistinction, justement. Donc, ça, voilà encore un phénomène pour l'un et pour l'autre.
Autre exemple, on a constaté à Sciences Po quand on s'est aperçu un certain nombre d'enseignants de Sciences Po que nos étudiants n'avaient pas le même patrimoine que nous pour un grand nombre de cas. Quand on faisait référence à Monsieur Homais, par exemple, ben, il savait pas du tout ce que c'était, ni quel personnage ça représentait. On a créé des cours de lecture de grands auteurs. Bon. Eh bien, la réaction des étudiants est de s'opposer à la notion de grand auteur. Pourquoi grand? Et pourquoi celui-là est-il plus grand qu'un autre? Et pourquoi Voltaire plutôt que Piron? Et pourquoi Chateaubriand plutôt que Boris Vian? Et donc, il a fallu défendre, et souvent on l'a fait sans succès, j'ai parlé de ça avec d'autres collègues qui s'y sont attelés, il a fallu défendre sans succès l'idée que certains auteurs, en effet, méritaient davantage et étaient plus importants.
C'est toujours cette indistinction. Mais alors justement, je voudrais vous titiller un tout petit peu. Philippe Meyer, j'ai vu le film de Bertrand Tavernier, ça commence aujourd'hui, et j'ai peut-être regardé ce film avec les yeux de Philippe Muret, parce que c'est ça un livre. C'est un éclairage sur le monde. Et je vous y ai vu d'abord.
Oui, oui,
vous jouiez
dans
un
le
rôle,
film, oui,
je jouais un rôle d'un homme politique, légèrement ridicule, que vous jouez d'ailleurs très bien.
Merci beaucoup. C'est un rôle de composition, quand même.
Mais bien entendu, c'est parce que je voulais le jouer très bien. Moi, je ne suis pas dans la direction. Mais c'est pas de cela que je veux parler. C'est du rapport de ce film et de la fête, et peut-être d'une certaine idée de l'école et de la fête. Donc, le problème de la grandeur me fournissait une transition. Parce qu'on est dans le nécro-festif. C'est un film dont le sujet apparent, évident, douloureux, c'est la misère et l'exclusion. Et la misère totale, celle-là même d'ailleurs dont parle Peggy dans son cahier de Jean Coste, la servitude économique, cette misère qui est le seul compartiment de vie. Et cette misère mène un des personnages, une mère d'élèves, au suicide. Elle se tue, elle entraîne ses deux enfants dans la mort. Moment particulièrement tragique, mais comment tout cela se résout-il? Cela se résout quand même par une fête, c'est-à-dire que l'instituteur, le directeur de l'école, épuisé, dégoûté, veut abandonner son métier en disant « je ne peux plus rien faire ». Sa compagne, qui est artiste, bien sûr, qui fait de la sculpture, eh bien, et veut l'encourager, et elle dit « ton école est grise, on va y mettre de là ». Couleurs, on va y mettre on va y organiser une grande fête avec des tentes, etc. La fête, en effet, est organisée et elle est un véritable succès. Elle redonne du courage à l'instituteur et c'est là justement que je vois, si vous voulez, quelque chose de tout à fait contemporain, c'est-à-dire d'un côté on a une situation d'extrême urgence et on branche sur cette situation d'extrême urgence une sorte d'utopie où l'école elle-même, pour réussir, devrait finalement être festive. Or, Peggy, dans le texte que je citais, dit, effectivement, il y a une chose à faire, c'est en finir avec la servitude économique parce qu'elle exclut l'homme de la cité. Il faut que les individus soient pourvus du nécessaire. Il dit, le vrai nécessaire, c'est le pain et le livre. Or, maintenant, j'ai quand même le sentiment, et c'est ça le basculement, que le vrai nécessaire, c'est le pain et la joie. C'est-à-dire, c'est le pain et la fête. C'est-à-dire, une idée d'humanité qui ne passe plus par les livres, mais qui passe justement par ce sentiment d'humanité dont Rousseau nous a appris qu'il était le sujet de la fête. La fête, c'est une humanité qui se regarde et qui se célèbre elle-même dans une sorte de fusion, de communion incessamment fraternelle. Et là, je me suis dit, voilà, c'est le pain et la fête à la place du pain et les livres. Et alors donc l'école, évidemment, elle est toujours coupable de ne pas être assez festive, parce que de toute façon on s'y ennuie, de toute façon c'est dur, de toute façon c'est austère. Et on voudrait quand même faire régner le principe de plaisir à l'école.
Il faut que vous rappeliez d'abord que c'est une école maternelle.
Oui, mais
et d'autre part, moi si quelque chose alors me paraît vraiment extrêmement fort dans le film de Bertrand Tavernier, dans le propos de Bertrand Tavernier, c'est précisément la défense de ces gens qui sont le contraire de ceux que je dénonçais tout à l'heure. C'est-à-dire des gens qui font leur métier. Et le personnage de directeur d'école maternelle que joue Philippe Torreton est quelqu'un qui fait son métier et tout son métier, et qui ne prétend pas à être autre chose. Et qui vraiment, de l'intérieur de son école à l'extérieur, se soucie de faire en sorte, et il y a d'ailleurs une scène où il convoque des parents et il leur dit, écoutez, qui sont tous les deux chômeurs et qui donc, ça je l'ai observé, mon Dieu, quand je faisais mon livre sur la France et quand j'étais moi-même dans une cité de ce genre à Nancy, il convoque les deux parents qui sont au chômage, qui donc ne se lèvent plus et qui n'envoient plus leur gosse à l'école. Et il leur dit, il faut que vous vous réveillez, il faut que vous l'envoyez parce que il l'apprendra, je vais lui apprendre à lire. Et comme il aura appris à lire à la maternelle, quand il sera à l'autre école, il sera mieux armé, etc. C'est-à-dire, ce but premier de l'école n'est jamais effacé. L'épisode que vous citez, pour moi, c'est un épisode, je dirais, qui ressort de la psychologie et non pas de la politique pédagogique. C'est-à-dire qu'en effet, à un moment donné, ce type sur qui toutes les misères du monde tombent et qui en plus est moqué par son inspecteur et au fond marginalisé par son institution, qui lui dit « mais pourquoi tu te fatigues ? Tout ça ne vaut pas la peine. Fais ce que tu peux avec ceux qui, avec les meilleurs et puis pour le reste, prends des vacances. » Ce type retrouve, après ce choc que représente le suicide de cette femme et la mort des deux enfants, quelque chose à travers une... Il faut bien dire une bien pauvre fête, je veux dire bien pauvre fête avec des bouteilles de plastique et un peu de couleur pour essayer de passer.
Oui, mais il n'y a pas que le film, c'est-à-dire d'ailleurs je ne veux pas m'arrêter
oui,
au film.
Non, mais c'est simplement, c'est pour ne, d'accord. Je crois que le film n'est pas justifiable de ce reproche-là.
Tout à fait cela, il le dit peut-être un peu, disons qu'il y a. Mais c'est vrai que on a le sentiment aujourd'hui que on reproche au fond à l'école d'être un lieu d'abord déconnecté. Comme si c'était comme si c'était un accident, alors que c'est son essence, la déconnexion, et justement de ne pas être un lieu festif. On s'y ennuie, on y travaille, il y a de l'austérité, c'est escarpé. Je veux dire, il y a quelque chose de difficilement accessible.
Oui, c'est démodé, c'est pas moderne.
C'est pas moderne. Et puis alors là, sans vouloir d'ailleurs incriminer le film, à travers ce qu'en dit son scénariste Dominique Sampiero, lui-même directeur d'école maternelle, dans un entretien au Sommet qu'il a eu avec Daniel Picouli justement sur l'école, il dit mon utopie. C'est qu'on arrête de considérer l'enfant comme simplement un élève et qu'on en finisse avec cette espèce de surangoisse de la scolarisation. Il y a des enfants plus doués que d'autres pour le langage dès l'âge de 2 ans et cela va déterminer toute leur trajectoire alors qu'il y a d'autres formes d'intelligence et malheureusement des enfants vont attendre des années avant de pouvoir s'approcher de leurs spécificités. C'est-à-dire effectivement l'école comme le lieu où la gerbe des diversités humaines va pouvoir s'épanouir. Parce que ce que l'on sait a priori dans le monde hyperfestif, c'est que nous sommes tous des artistes. Voilà. Est-ce que c'est un peu cela quand même le votre
C'est ça l'homo festivus. C'est un artiste. Homo festivus, c'est quelqu'un pour qui les anciennes différenciations sont obsolètes. Différence des sexes, différence entre les âges. Homo festivus, c'est une sorte d'adolescent permanent. Enfin,
mais là, ça revient peut-être à la critique plus sociologique de Philippe Meyer. C'est lié à 68.
Il a raison. À partir du moment où les différences sont abolies,
c'est aussi la conséquence de 68. Oui. On a dans mon livre, je parle de la commémoration des 30 ans de 68 et parce que 68 est un événement à mes yeux ambigu. Peut-être il relève de l'ancienne histoire, celle des révolutions, des grandes fractures, du négatif des déchaîné, et puis maintenant qu'il est... Mais en même temps, c'était une fête, et peut-être la première fête d'après l'histoire. Sa relecture 30 ans plus tard, en mai dernier, a été assez amusante, parce qu'on l'a, notamment dans un article, je crois, du Monde, qui commençait par « Hier, c'était la rue, demain, aujourd'hui, c'est l'euro », c'était un raccourci magnifique de l'écrasement historique complet.
Mais l'abolition des différences, c'est évidemment, il faut pas se faire d'illusions. Derrière ce discours soi-disant libertaire de l'abolition des différences, il n'y a rien d'autre qu'un appétit de pouvoir absolument terrifiant. Car s'il n'y a plus de différence, s'il n'y a plus de nature, s'il n'y a plus de séparation, évidemment, on peut absolument attraper tout le monde dans une espèce de discours englobant et qui fait que celui qui tient ce discours de l'abolition des différences est celui auquel la référence doit d'ailleurs se faire. Vous avez fait dans une précédente émission une analyse du dernier livre de Lefort. Je trouve qu'il y aurait fortement intérêt à réfléchir de manière soutenue sur la manière dont le totalitarisme subsiste après l'effondrement des régimes totalitaires.
Alors, est-ce que c'est totalitarisme?
Je suis pas sûr que ce soit un totalitarisme. Ouais. C'est un totalitarisme, mais ce qui il me semble que Homo festivus, pour reprendre, en a fini avec l'aliénation. Il ne subit pas la festivisation générale. Il en est l'acteur, il en est l'ouvrier de base permanent et enthousiaste. Oui, alors c'est, d'ailleurs, il y a eu quand même qui, à mon avis, différencie même de la société du spectacle, de la critique de la société du spectacle, qui était basée sur l'aliénation, sur la critique de l'aliénation et sur le fait que l'homme spectateur était un homme passif. Je pense que la festivisation est une participation permanente.
C'est-à-dire d'ailleurs que quand on est, je pense que le mot de fête est plus juste que le mot de spectacle, parce que dans la fête il y a une suppression du spectacle. C'est oui, exactement ce que Rousseau montre. Voilà. Il veut plus du spectacle, il veut la fête, et on est peut-être dedans. Alors je voudrais lire un extrait parce que de votre livre consacré à la technoparade, hein. Elle est donc venue, on l'a vue, elle a déferlé. Et surtout, elle s'est montrée, elle s'est exhibée, elle s'est fait entendre. Elle s'est affichée, cette merveilleuse parade techno qui n'avait rien d'autre à vendre que son propre déploiement, rien d'autre à étaler que son ostentation tautologique et cataclysmique, mais qui a réussi, bien entendu, comme de juste, à se déguiser en cause généreuse et sensationnelle, ainsi qu'en mouvement spontané, insupportablement persécuté par toutes les forces mauvaises que compte encore notre époque. Paris à feu et à son, ce pour les chefs François, en gros titre, le matin même, à propos de cette mémorable manifestation que personne ne songea, du moins d'après ce que j'en sais, à appeler comme il l'aurait fallu, c'est-à-dire du nom de celui qui en était le parrain, le crime de Monsieur Lang. Donc, en effet, oui, mais alors justement, là aussi, c'est la question se pose. Qu'il s'agisse de la technoparade ou d'un autre événement que je crois vous avez raison de ranger dans cette fête, qui est un des visages de la fête, à savoir la manière dont a été célébrée la Coupe du Monde.
Oui. Hein,
parce que la Coupe du Monde de football, c'est une vieille histoire, mais là, il y a quelque chose qui a changé. Justement, qu'en penser, c'est-à-dire chercher ceux qui ont intérêt à tout ça, c'est une chose, mais d'un autre côté, l'enthousiasme est massif, l'enthousiasme médiatique. Peut-être que d'ailleurs, même sur la chaîne où vous travaillez, Philippe Meyer, vous pouvez voir des homo festivus au travail. Donc, comment expliquer le succès? Comment expliquer que ça marche aussi bien et sur des générations vraiment nombreuses, cette réconciliation universelle autour du festival, quasi universel.
En dehors du panurgisme dont vous parliez tout à l'heure à propos de cette magnifique expression de Milton Panurge, je crois que Philippe Muret le dit dans cette occasion et dans d'autres occasions de ses articles, de ses écrits, c'est ce système binaire très semblable au rythme de la disco qui marche très bien, qui est l'invention de la persécution alors qu'elle a disparu de partout. C'est-à-dire cette façon que la techno-parade a eu pour se vendre, d'expliquer d'abord que ceux qui allaient techno-parader étaient partout des victimes de préjugés à tout le moins, et sous-entendait-on de persécutions qui ne sont évidemment jamais définies, mais qui sont des persécutions. On l'a vu d'ailleurs aussi à propos de la discussion sur le Pax, et on l'a vu à propos d'autres discussions sur des sujets pas moins chauds que les deux que je viens. Et il est vrai que le sentiment dans la classe journalistique, dans le personnel journalistique, de se porter les chevaliers servants, les avocats en tournoi de ceux qui sont persécutés, est aussi l'un des moyens de gratifier. Vous savez, c'est comme être original tous ensemble. Nous sommes tous des défenseurs. Je ne sais plus où sont les persécutés, du coup, parce que quand on s'aligne, il n'y a plus que des défenseurs.
Mais alors là, ça crée une difficulté à laquelle, d'ailleurs, le livre de Philippe Muret fait référence. C'est-à-dire, on a besoin d'ennemis pour se faire croire à soi-même qu'on est persécuté ou révolté ou transgressif. La norme, si vous voulez, c'est déplacer dans la transgression. Oui. C'est ça l'époque. Mais alors justement, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fera si demain Le Pen s'effondre? Ce sera une catastrophe pour ses ennemis. Il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire là, tout d'un coup, ça donne un autre visage à la vie politique. Il y a tant de gens qui ont besoin, si vous voulez, d'un bon vieux fascisme pour interdire tout, pour interdire la musique jeune, etc., pour faire croire que les jeunes ne sont pas les idoles de cette époque, mais au contraire ceux auxquels on en veut, que ce qui aurait pu apparaître comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'implosion du Front National et cette espèce, justement, d'autophagie qui le prend, eh bien, ça va être une mauvaise nouvelle. On va tout faire pour le mettre sous respiration artificielle.
Il y a même mieux.
Très embêtant.
Il y a même mieux que l'implosion du Front National. Une étude a été publiée, et dont le Figaro avait en son temps rendu compte, en avril de l'année dernière, pour montrer, pour montrer que si le vote blanc était reconnu comme un vote exprimé, car il est en augmentation constante, les voix du Front National aux élections régionales étaient diminuées de moitié. Vous pensez bien qu'il n'y a pas un parti, ni à droite ni à gauche, qui a avancé cet argument pourtant éminemment civique dans une société citoyenne, je crois que c'est une démocratie citoyenne, c'est là-dedans que à quoi tout le monde nous appelle, pour dire, bon, bah écoutez, voilà un problème qui est réglé, il est avéré que des gens votent pour le Front National ou pour l'un des deux Fronts Nationaux parce qu'ils ne peuvent pas protester d'une manière purs, chimiquement purs, donc donnant-leur démocratiquement le moyen de cette protestation chimiquement pure en rendant le vote blanc un vote exprimé. Eh bien, évidemment, il n'en est rien. Ça va coûter très cher à beaucoup de gens, parce que moi, j'ai un exemple. J'ai une amie qui est élue régionale et qui s'est trouvée dans la commission qui avait approuvé les œuvres choisies par le FRAC de l'Île-de-France. Et on lui a apporté des choses absolument... Ils n'étaient pas seuls, c'était toute une bande d'élus. Alors, il était évident que les experts, cette race de seigneurs dont je parlais tout à l'heure, étaient écœurés à l'idée que des élus aient un mot à dire. Il se trouve que c'est avec l'argent public qu'on achète les choses. Mais donc, ils leur ont parlé comme à des crétins. Il se trouve que cette jeune femme est agrégée, qu'elle a publié quelque chose, mais enfin, elle a un nom que on ne peut pas retenir ou confondre avec d'autres. Donc, elle a commencé à poser des questions un peu pertinentes. Et puis, à un moment donné, on lui a porté pour que donc la région l'achète une grosse ampoule électrique de taille un peu de la taille d'une enseigne, si vous voulez, de magasin, dans un cube de plexiglas. Et le type qui présentait la chose a dit à la commission :« Voilà, cette œuvre convoque le vide. » Ah, a dit mon ami. Et combien coûte-t-elle ? 170 000 francs. Comment a-t-on établi ce prix ? Combien l'artiste en a-t-il vendu dans le privé ? Il n'en a jamais vendu dans le privé. Donc l'artiste fait son prix lui-même. Je pense que c'est pas nécessaire de l'acheter. Mais comment ? On a déjà acheté toutes ses œuvres antérieures. On ne va pas manquer celle-là qui convoque le vide. Eh bien, voilà, cela, si vous voulez pas qu'on achète l'œuvre qui convoque le vide, ils vous disent immédiatement que vous êtes le péniste. Quand Le Pen va disparaître, il va falloir qu'ils se reconvertissent, mais ils trouveront.
Alors, dans mon livre, une phrase sur quelqu'un qui avait dit il y a quelques mois, on n'a pas le droit d'être critique vis-à-vis de l'art contemporain. Dans un pays où Le Pen fait 15%.
Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un que j'inviterai la semaine prochaine.
Je renverserai la proposition.
Alors, quand il fait 13, est-ce qu'on a le droit de commencer?
Il y a des gens qui ont été vraiment la victime de ça, notamment Jean Baudrillard. Il faisait des chroniques dans un quotidien du matin et on lui a demandé de les arrêter parce qu'il a dit un jour, avec beaucoup de d'ailleurs de subtilité, que l'art contemporain est nul. Et ça, d'un coup, effectivement, il a été classé, notamment par les Inoccupables. L'hebdomadaire de l'Homo Festivus, de l'Homo Festivus intelligent, il a été classé parmi les conservateurs, les réactionnaires. Mais alors, faisons un peu de philosophie, puisque votre livre nous y convie, Philippe Muret. C'est un livre très descriptif et en même temps très conceptuel, puisque cette catégorie tient bon. Hein, et effectivement, la réalité était bonne fille avec vous. Hein, vous avez passé un an à vous demander si l'Homo Festivus c'était vraiment
une bonne année. C'était une très bonne année.
Une très bonne année. 99 démarre pas mal.
Celle-ci sera bonne aussi.
99 démarre pas mal. Et alors franchement, l'an 2000, ça, on en attend. Absolument. On s'en lèche les babines à l'avance. L'histoire s'arrête, écrit Kojève, quand l'homme n'agit plus au sens fort du terme, c'est-à-dire ne nie plus, ne transforme plus le donné naturel et social par une sanglante et un travail créateur. Et l'homme ne le fait plus quand le réel donné lui donne pleinement satisfaction en réalisant pleinement son désir. Si l'homme est vraiment et pleinement satisfait par ce qui est, il ne désire plus rien de réel et ne change donc plus la réalité en cessant ainsi de changer réellement lui-même. Vous pensez que c'est la description topique de notre époque et c'est pour ça que vous dites, au sens hegélien, que...
C'est vers ça qu'on va. C'est pas... Mon hypothèse de la que il y a une fin de l'histoire, et ce n'est qu'une hypothèse. J'essaye de la vérifier. C'est probablement d'ailleurs une fin de l'histoire caricaturale par rapport à celle que Hegel avait décrite. Elle en a quelques traits, l'établissement d'un État universel qui est en train de s'établir d'une certaine façon, mais qui sera jamais universel. Les derniers épisodes de ce qui a été l'histoire de l'humanité d'après Hegel, la lutte pour la reconnaissance, qui se font qui se transforment d'une façon parodique en défilé de la fierté, en pride.
Oui, c'est ça. Vous dites on quitte l'âge du fer pour l'âge du fier. Vous aimez bien les jeux de mots et c'est vrai qu'ils sont souvent assez pertinents.
Ça m'amuse.
Donc l'âge du fier, c'est-à-dire en effet, c'est la pride. On est dans l'univers.
Ce serait intéressant de faire une sorte d'archéologie de la fierté à travers l'histoire, de voir que au XVIIe siècle, par exemple, on appelait ça la gloire, et de voir qu'est-ce que c'était à cette époque-là, de quelle substance c'était, et qu'est-ce que c'est maintenant être fier. Bon, toutes ces questions-là, elles sont rarement posées.
Mais c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir à ça autour du thème de la reconnaissance, parce que effectivement. L'une des caractéristiques de notre époque, c'est effectivement sa fierté générale, c'est-à-dire elle est fière d'être l'époque où qui la première a exigé au fond la reconnaissance pour tout le monde,
oui,
c'est-à-dire les hommes, les femmes, les hétérosexuels, les homosexuels, etc., etc.
Oui.
Et aucune autre époque de l'humanité n'a été aussi loin dans la reconnaissance. D'où d'ailleurs cette omniprésence du présent, d'où peut-être aussi Philippe Meyer cette difficulté à penser la grandeur du passé, parce que le passé est handicapé, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il est toujours en défaut par rapport à cette espèce d'apologie de la reconnaissance, où notre époque se complaît, où elle se reconnaît elle-même, et à travers laquelle elle célèbre effectivement sa suprématie, et donc un peu l'apothéose de l'histoire. Et Philippe Meyer, je trouve qu'il y a un passage dans un de vos livres, celui que vous publiez au Cherche Midi, qui nous aide un peu à penser cela, parce que vous rivez son clou, et j'étais très heureux de cela, à quelqu'un dont la presse a dit que c'était un génie, un metteur en scène, justement, qui actualise systématiquement toutes les œuvres. C'est-à-dire, pour lui, effectivement, Mozart, c'est grand, mais Mozart, c'est grand, retraduit par lui. Et notre époque, puisque elle est celle de la reconnaissance, elle retraduit, elle reconvertit tout en elle-même. Et alors, vous nous racontez dans le livre le Don Giovanni de Mozart, mise en scène par Peter Sellars.
Ah, bah,
vous le liriez pour moi? Parce que moi, je veux pas... C'est tellement merveilleux, c'est bon...
Je vous propose de vous narrer le premier acte de Don Giovanni de Mozart transposé dans l'univers glauque de Harlem, dans la mise en scène inspirée de Monsieur Peter Sellars. D'abord, il y a Anna. C'est une nana plutôt bourge, pas vraiment en classe, mais bourge. Elle vient chercher sa cam dans le quartier Ripoux où crèche Giovanni, le dealer, qui lui fogue son héros. Quand elle se pointe, Giovanni a la trique et il se la fait contre le mur. Pas de peau, le père à Anna, qui se gaffait que sa fille devenait naze, lui collait au train en lousté. Il veut casser la gueule à Giovanni, qui sort son flingue et le bute avant de se tirer. Le Jules à Anna, Ottavio, y est vachement colère. Et comme il est quefli, Giovanni risque de se faire une tête. Elvira, elle, ça serait plutôt le genre qui tapine, ou Madonna à la recherche de Mr. Goodbar. Giovanni, elle l'a carrément dans la peau, elle en peut plus, je veux dire. Pour l'écœurer, le pote à Giovanni, Leporello, lui sort toutes les photos dégueu que Giovanni a prises des nénettes qu'il s'est farci, et il y en a un paxon. Mazzetto, lui, c'est le genre bon nègre prolo, casse de l'oncle Tom, qui veut se marier à la régulière avec Zerline, une beau de people qu'il a rencontrée à la laverie. Seulement, quand Giovanni le quebra avec son 765, il est carrément obligé d'y laisser rouler des pelles à sa gonzesse. Faut dire que Giovanni, c'est pas une tante. À la fin du premier acte, il fait une fête d'enfer avec ses potes qui viennent de taxer l'épicier mecs du coin. Pour leur faire voir qui c'est la plus grosse et qu'est le chef, il se déloque et il part bourriquer la Zerline en gardant ses chaussettes et un slip que sur les plages on appelle un roule-couille.
Et c'est une description exacte.
Je vous jure que c'était la mise en scène de Peter Sellars à Bobigny du Don Giovanni. C'était chanté abominablement avec un orchestre épouvantable. Et je n'ai jamais vu autant de voitures avec chauffeur à Bobigny, ni autant de cachemire double fil, triple fil et de lunettes en monture d'écaille, où tout ce qu'il y avait de bourgeois épatable et même éminemment épatable était absolument transporté. Il a refait le coup avec les Noces de Figaro, où le comte donnait des coups de pied dans le ventre de la comtesse. Ça se passait d'ailleurs dans la Trump Tower de Manhattan, d'où le comte partait pour chasser, car comme chacun sait, on chasse fréquemment à New York quand on sort avec sa carte.
Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que Peter Sellars, il a un peu la tête de
Mozart dans Amadeus. Exactement, le genre punk hennissant,
oui,
comme
il est. Et moi, je me souviens d'un entretien avec Thierry Ardisson, à l'époque de Lunettes Noires et je sais pas quoi, et Nuit Blanche, et où Thierry Ardisson reçoit Peter Sellars, et il lui dit, au bar, comme ça, « Tu sais que t'es un génie ?» Alors, évidemment, Peter Sellars a réagi, il a répondu à l'éloge, et donc, effectivement, il est un peu intronisé génie, alors qu'il récupère, me semble-t-il, le spectacle pour l'ère hyperfestive d'aujourd'hui, pour le présent qui se présente à lui-même.
Il y a derrière ça et derrière l'hyperfestif, comme vous le disiez à propos du passé, mais il y a aussi une vraie haine de la culture, de l'acte de se cultiver, de l'acte du passé et de la culture. Si la culture, comme Anna Arendt, chère au producteur de cette émission, l'a dit, c'est un moyen de sortir de cette prison qu'est soi-même, d'entrer en contact avec l'expérience des autres, eh bien, ça, alors, c'est quelque chose qui est profondément haï, parce que il me semble que les hyper-festiveurs sentent tout ce qu'il y a de liberté dans, je n'ose pas dire l'acte culturel, tellement le mot est grotesque, dans le fait de choisir un livre, de l'ouvrir, de se référer à un autre livre auquel le premier vous a envoyé, de choisir ce film plutôt qu'un autre, cette œuvre musicale, le moment où la consomme, etc. Et ça, moi, je suis très frappé, parce que j'ai professionnellement fréquenté avec des intensités diverses les milieux de l'audiovisuel, et plus particulièrement de la télévision. La haine de la culture y est profondément présente, c'est une grosse
motivation. C'est votre diagnostic aussi, Philippe?
Oui, tout à fait. C'est le magnifique texte que vous venez de lire. c'est aussi ce genre de spectacle un refus d'écouter, de voir quelque chose de totalement différent de ce que nous vivons, de quelque chose qui était dans le passé, qui était
qui
nous dépayserait. C'est ce refus d'être dépaysé.
Oui, et c'est vrai aussi que ce tous artistes dont vous parlez, c'est une conception de l'art comme expression, c'est-à-dire c'est l'art comme prolongement de la subjectivité, et donc effectivement la culture, dans la mesure où elle est plutôt exploration, dévoilement, sortie de soi, eh bien elle est complètement évincée par ce tous artistes.
Mais c'est dans le cas de l'opéra plus précisément encore, la haine de la musique qui, comme chacun sait, ne dit rien. Et donc pour faire oublier la musique, dont on ne sait pas ce qu'elle peut dire, même cette musique-là qui est sur des paroles, donc on pourrait dire qu'elle dit quelque chose, mais ça n'est même pas sûr qu'elle dise quelque chose. Car moi, je me souviens qu'enfant, j'ai entendu le début du premier acte de Don Giovanni, le moment où Don Giovanni se bat en duel avec le commandeur, et avant leur querelle, je croyais que c'était au contraire une proclamation d'amitié à la suite de laquelle ils allaient partir en guerre. Donc la musique ne dit pas qu'ils sont en train de se battre parce que le père a découvert Don Juan dans la chambre de sa fille. Et la haine de cette musique qui ne dit rien, dont on ne sait pas ce qu'elle peut dire. Vous vous souvenez de ce conventionnel qui s'appelait Leclerc, qui au moment de la convention avait proposé que on vote une interdiction de l'exécution de la musique instrumentale sans autorisation préalable, car disait-il, quand les gens chantent Allons enfants de la patrie ou bien Marchons marchons, on sait ce qu'ils pensent, mais quand ils entendent de la musique, qu'est-ce qu'ils pensent? On ne le sait pas. Et bien là, ils ont réussi non pas à l'interdire, mais à faire en sorte que on oublie le plus possible la musique en surchargeant ça de leurs inventions qui n'en sont pas.
Du catéchisme actuel.
C'est un catéchisme, oui, stéréotypes de l'époque. Écoutez, je lis me suis fait couper les cheveux ce matin pour être propre pour votre émission, et je lis dans Gala, chez mon coiffeur, je loue ma coiffeuse pour être précis.
Ah, vous excusez de lire Gala, c'est pour ça que vous nous racontez que vous êtes allé chez le coiffeur.
Je vais chez le coiffeur que pour lire Gala, sinon j'aurai les cheveux au-dessous des fesses.
Ah, oui.
Mais je ne vais que chez ce coiffeur parce que justement il y a Gala, et qu'est-ce que j'y lis? Que Jean-Paul Gaultier a eu des ennuis avec des photographes, il y a eu une manifestation autour d'un de ses défilés. Et la question que lui pose l'intervieweur, c'est Jean-Paul Gaultier, vous dont les défilés sont toujours un message de tolérance, comment avez-vous pris cette révolte des photographes?
Eh bien, j'ai vu, moi, sur Paris Première ou ailleurs, un défilé de Kenzo où il nous est expliqué qu'il avait reçu une récompense, une médaille, parce que, justement, ces défilés proposent, en quelque sorte, la tolérance et le métissage. Il y a et parce qu'évidemment, ils métissent les couleurs, les mannequins, etc., les modes, les époques. Donc, effectivement, on n'échappe pas ni à la fête, ni au fond à la morale.
Voilà. Ni au cléricalisme, ni au cléricalisme.
La fête est toujours tolérante. La technoparade, l'éloge de la technoparade a été fait sur le thème de la tolérance.
Et l'est-elle vraiment, d'ailleurs? Enfin, si on s'y interroge.
Mais non, puisqu'il est défendu.
Le plus grand terrorisme pas le plus grand terrorisme qui ait jamais existé, mais enfin, c'est un nouveau terrorisme.
Oui. C'est un nouveau terrorisme, et c'est aussi, il y a une intolérance, justement, de cette idée-là de la musique au silence.
Absolument.
Je crois que le silence est assimilé à la mort, à la vieillesse et à la mort. Donc,
il y a une poussée extraordinaire d'intimidation et de cléricalisme, et une dénégation de la réalité qui est extraordinaire. Si je prends un sujet encore plus chaud que celui de Technoparade, qui est le Pax, il y a eu dans Esprit un article signé par un garçon qui s'appelle Sébastien Galceran, qui ne cache pas d'ailleurs que lui-même pourrait, le cas échéant, signer un Pax avec un garçon s'il avait envie de signer un Pax, et qui explique que ça ne correspond à aucune demande. Que c'est une invention d'un petit nombre d'associations qui ne représentent pas 500 personnes à elles toutes, et qui, pour capitaliser de la notoriété, ont inventé à la fois la persécution et il y a eu dans les actes de la recherche en sciences sociales, revue qu'on cite moins souvent qu'Anna Arendt dans cette émission, mais dans lesquelles il y a quelquefois des aperçus sociologiques intéressants, un article montrant que dans tous les pays dans lesquels existe l'équivalent d'un Pax, voire même quelquefois le mariage entre personnes du même sexe, il n'est pas utilisé. Il est utilisé par une portion absolument infime de la population qu'on peut compter sur les doigts. Mais c'est simplement, c'est une façon de dire aux autres, comment vous êtes contre, donc si vous êtes contre une chose, si vous êtes contre la parité, vous êtes contre les femmes, si vous êtes, etc., etc.
Oui.
Et ce discours est malheureusement absolument relayé par la vulgate journalistique.
Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais dire simplement que toute critique, de plus en plus, est assimilée à la... toute critique, si légère soit-elle, est assimilée, ça m'intéressait, de voir assimiler l'homophobie et la misanthropie. C'est ce que j'appelle l'interdit de l'Alceste.
Un autre des jeux de mots. L'interdit de l'Alceste, oui.
Les lecteurs d'Antoine Blondin retrouveront quelques plaisirs perdus en lisant Philippe Muret.
Ça me semble quand même symptomatique que toute critique soit appelée maintenant une manifestation de misanthropie.
Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, vous dites aussi que Homo Festivus, Il se déploie, enfin, il s'épanouit sur la mort, sur le cadavre d'Homo Criticus.
Hein, voilà.
C'est ça. C'est l'homme critique. Vous voyez, je vous ai bien lu. Alors, un mot quand même sur les actes de la recherche en sciences sociales. J'ai dû essayer 4, 5, peut-être 6 fois d'inviter Pierre Bourdieu, son auguste directeur, à cette émission, sans succès jusqu'ici. Et donc, je relance mon invitation. Comme on dit à Canal+, quand il veut, comme il veut. Mais je voudrais simplement je m'interroge, et je voudrais que vous interroger avec moi pour finir cette émission, sur l'Europe et sur, comment dire, la naissance de l'Europe ou l'idée de l'Europe qui se manifeste actuellement, parce que j'ai peur, moi, qu'elle ne consacre le règne d'Homo Festivus sur peut-être les ruines de l'Europe culturelle. Et je suis très frappé par l'hymne européen. Parce que on se dit, bah oui, c'est quoi l'hymne européen? C'est l'hymne à la joie. Qui? Lisons le poème de Schiller. Schiller est un grand poète, mais ce poème, c'est quoi? C'est « Ô joie divine étincelle, bel enfant de l'Élysée, nous pénétrons ivre de feu céleste, tes lieux sacrés, tu renoues par tes sortilèges ce que la mode a tranché, où ton aile pose légère, tous les hommes deviennent frères, enlacez-vous millions d'êtres, que ce baiser aille au monde entier. » C'est-à-dire, c'est vraiment une convocation à la fête, et c'est surtout, c'est-à-dire, on éveille une certaine idée d'humanité qu'on ne va plus chercher dans les œuvres, mais qu'on va chercher dans l'idylle. C'est-à-dire, c'est là où on voit, à travers cet hymne, le sentiment succéder à la culture. Est-ce que c'est pas ça, justement, le problème de l'époque? Le sentiment succédant à la culture, oui.
Non, je veux dire simplement, juste un mot, la naissance de l'euro telle qu'elle a été filmée le 31 décembre était une fête avec des envols de ballons.
Oui, les ballons, les célèbres ballons.
Oui, parce qu'il faut dire qu'en plus que les festiviteurs ou les festivisateurs manquent beaucoup quand même d'imagination.
La fête est monotone. Je
pensais, par exemple, il y avait, bon, il a maintenant changé complètement, mais l'époque où Jérôme Savary faisait son grand magique circus avec ses animaux tristes, il y avait vraiment des fêtes, oui, tout à fait admirables, et où ça éclatait de partout, et on était surpris en même temps. Et il y avait le côté carnavalesque, de mettre les choses cul par-dessus tête.
C'était des fêtes en contraste, voilà. Et c'était aussi des spectacles.
Hein, exactement. Où,
bon, alors écoutez, nous terminerons sur cette évocation nostalgique. Je vous remercie l'un et l'autre de cette agréable et vivifiante et consolante conversation, malgré tout, consolante dans le pessimisme, on n'est pas tout seul, on se tient chaud. Je voudrais rappeler les titres de vos livres. Alors, Philippe Meyer, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, puisque vous publiez 3 tomes de vos chroniques, Le futur ne manque pas d'avenir, Du futur faisons table rase, un autre que je...
Le progrès fait rage,
Le futur ne manque pas d'avenir, Du futur faisons table rase, toutes les trois publiées en collection Folio, et aussi... Au Cherche Midi, un livre intitulé Portraits acides et autres pensées édifiantes, livre d'où nous avons extrait la description du spectacle de Peter Sellars. Et puis Philippe Muret, j'insiste un peu plus parce que Philippe Meyer, lui, il fait partie de la famille,
J'insiste avec vous
votre livre Après l'histoire est publié aux Belles Lettres, c'est un bloc-notes de l'année 98, c'est aussi un essai très important que j'exhorte absolument auditeurs à lire, à aller
encore
acheter.
Une fois, ils y trouveront des plaisirs, des bonheurs de lecture innombrables, et en plus de penser.
Acheter donc de ce pas.